Et vous êtes de retour à votre émission Les Aurores Montréal. On va maintenant rejoindre la directrice des programmes chez Vélo Québec, Magali Bebron. Bonjour Magali.
Bonjour David.
Aujourd'hui, tu nous amènes à découvrir un peu les particularités et aussi les possibilités du vélo d'hiver.
Exactement. Ce sera passé inaperçu pour personne. Hein? Montréal a reçu sa première neige la semaine dernière. Donc, j'ai le droit de vous parler d'un de mes sujets de prédilection, le vélo d'hiver. Il faut voir que c'est vraiment un sujet cher à mon cœur parce que c'est vraiment à travers ça, moi, que j'ai découvert la communauté cycliste montréalaise et que je me suis intéressée au vélo au point de poser ma candidature chez Vélo Québec quelques années plus tard. Ça a été une révélation. Donc, mon aventure de vélo d'hiver, en fait, elle a même commencé avec l'apport déterminant de CIBL.
Bon.
Contre toute attente. Vous allez vous demander pourquoi, mais si mes souvenirs sont bons, c'est à l'hiver 2010-2011 que CIBL a lancé ce qu'on appelait à l'époque le défi vélo d'hiver. Le principe était simple, il fallait rouler autant de jours que possible cet hiver-là et on courait la chance de gagner un vélo offert par Dumoulin. Je ne l'ai pas gagné, mais bon.
Mais ça t'a incité quand même.
Mais ça m'a incité, effectivement. Puis, pour rendre compte de nos exploits, on devait chaque semaine venir inscrire dans un groupe sur Facebook le nombre de jours où on avait roulé. Et assez naturellement, les membres de ce groupe-là ont commencé à s'échanger des conseils, se poser des questions, etc. Mmh. Et c'est comme ça, en quelque sorte, qu'est né l'ancêtre du groupe Vélo d'hiver Montréal, qui compte aujourd'hui plus de 15 000 membres à Montréal.
OK, c'est un bon nombre.
C'est un bon nombre. Ça donne une petite idée hein, de la popularité du phénomène à Montréal. Mais bien sûr, ce n'est que la pointe de l'iceberg. En 2020, chez Vélo Québec, on estimait, avec notre étude quinquennale, l'état du vélo, que 190 000 personnes faisaient du vélo entre décembre et mars à la grandeur de la province. On ne parle pas nécessairement de gens qui en font à tous les jours, mais c'est des personnes qui, au moins occasionnellement, ont pris leur vélo pendant ces mois d'hiver. La même étude estime d'ailleurs que la saison du vélo a gagné 2 semaines entre 2015 et 2020 avec une durée moyenne de 5 mois. Un petit peu plus pour ceux qui utilisent le vélo à des fins utilitaires plutôt que juste pour le plaisir de rouler les cheveux dans le vent. L'autre façon qu'on a d'estimer la croissance du vélo d'hiver, c'est de regarder les données des compteurs automatiques qui sont disposés un petit peu partout sur les réseaux cyclables. Hein. Parfois, on le voit, c'est des petits losanges là au sol. Moi, j'ai toujours l'impression de voter quand je passe sur un de ces...
Tu participes.
Ouais, c'est ça, on m'a compté. Donc, à Montréal, on en a pas loin de 60 et leurs données sont accessibles d'ailleurs en ligne en temps presque réel, là, jour après jour. Et avec ces données, on a pu calculer ce qu'on appelle un taux de rétention pour le vélo d'hiver. C'est-à-dire la proportion de cyclistes qui continuent à rouler entre décembre et mars par rapport aux chiffres enregistrés entre juin et septembre. Alors, à l'hiver 2016-2017, ce taux il était d'à peu près 1 cycliste sur 12. 4 ans plus tard, c'est pas loin de 1 cycliste sur 7 qui continue à rouler sur ces pistes-là.
OK, c'est quand même une bonne différence, mais de ce que je comprends, c'est pas juste les cyclistes endurcis là, qui roulent l'hiver. Là, comment on peut expliquer justement que c'est de plus en plus populaire, cette approche-là?
Ben, cette démocratisation du vélo d'hiver, selon moi, ça s'explique en bonne partie par les infrastructures cyclables. C'est vrai en été, quand il y a des infrastructures cyclables de qualité, les gens les utilisent et ça stimule vraiment la pratique. Ben, c'est pareil, c'est exactement pareil en hiver. Quand on déneige correctement une part toujours plus grande du réseau cyclable, ça rend la pratique accessible à toute une partie de la population qui s'y serait jamais essayée il y a quelques années. Mmh. Pour mesurer le chemin parcouru, il faut se rappeler qu'en 2007, la ville de Montréal a annoncé la création de ce qu'on appelait alors le réseau blanc. Ce réseau devait en théorie compter une trentaine de kilomètres. Ça concernait essentiellement les quelques pistes cyclables bidirectionnelles séparées de la circulation sur le boulevard de Maisonneuve, par exemple, ou la piste de la rue Rachel. Et encore là, ce réseau, il a eu beaucoup de mal à exister parce qu'il revenait aux arrondissements de les déneiger et tout le monde n'était pas prêt à mettre le budget nécessaire pour le faire, même pas le plateau.
C'était pas les mêmes efforts par tous.
C'est ça, c'était pas encore si bien reconnu. Mais maintenant, si on regarde ce qu'annonce la ville pour l'hiver 2022-2023, on nous promet 711 kilomètres de réseau cyclable déneigé. Ça, c'est 23 fois plus qu'il y a 15 ans.
C'est énorme, mais des fois, on retrouve quand même des écarts entre réalité et puis qu'est-ce qui est proposé. Est-ce que tu penses qu'on va vraiment pouvoir profiter de 700 kilomètres de pistes cyclables déneigées?
C'est sûr que ce chiffre-là est un peu à prendre avec des pincettes. Il faut un peu lire les petits caractères sur la carte que la ville met à notre disposition. En théorie, les voies cyclables bénéficient du même niveau de service que les rues sur lesquelles elles se trouvent. Mais dans le cas des bandes cyclables, qui sont uniquement peintes au sol, C'est sûr que juste après un chargement de neige, elles vont être très praticables. Mais tant qu'on va faire que du déblaiement, ben, la neige, elle va être poussée vers la droite. Et la droite, c'est quoi? C'est justement la fameuse bande cyclable. Donc, quand on pense aux voies cyclables qui permettent de rouler à contresens sur un sens unique, c'est vraiment pas très confortable de rouler là-dessus quand la voie est énormément rétrécie par la neige. Mais ce qui est intéressant, c'est que la ville a bien compris que toutes les voies cyclables ne se valent pas en hiver. Donc maintenant, quand on conçoit des voies cyclables, elles sont de plus en plus construites de façon à pouvoir être entretenues et utilisées 12 mois par année.
Okay.
Ces dernières années, l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie a même mis à niveau plusieurs de ces bandes cyclables, comme celle de la rue Saint-Dominique.
Quand tu parles de mise à niveau, c'est de les mettre une bande à part, là, c'est ça?
C'est ça. Ben, en fait, c'est que là où la largeur de la rue le permet, on va inverser la voie de stationnement auto et la voie cyclable pour que la voie cyclable se retrouve entre le trottoir et le stationnement. Okay. Donc ça, non seulement ça offre un niveau de protection supplémentaire parce qu'on est protégé de la circulation, mais en plus, ça fait en sorte que la voie cyclable, elle est déneigée séparément avec ses propres efforts, sa machinerie spéciale, et c'est beaucoup plus confortable qu'avant, surtout justement quand on se retrouve à contresens, quand on va vers le nord. Le plateau a fait à peu près la même chose sur les rues de La Roche et Christophe Colomb, mais avec un défi supplémentaire parce que ces rues-là accueillent aussi une ligne de bus. Donc ils ont trouvé une façon tout à fait innovante de construire des arrêts de bus surélevés pour que la mise à niveau qu'on fait pour les cyclistes ne vienne pas nuire à l'accessibilité universelle des bus.
De ce qu'on parlait justement en début d'émission. Je ne sais pas si tu étais là, mais on en parlait.
Bien important, là, on essaye d'améliorer la mobilité pour tous. Donc, il ne faut pas que les améliorations pour les uns se soldent par des pertes pour les autres. Parlant d'initiative d'arrondissement, je dois absolument vous parler de la subvention pour le vélo d'hiver de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville.
Mais là, une subvention pour vélo d'hiver, comment ça marche? À qui ça s'adresse?
Bien, c'est un peu sur le même principe que la subvention pour les couches réutilisables qu'on a pour les bébés. L'arrondissement a annoncé une subvention qui permet aux citoyens de s'équiper de pneus à crampons, pneus à clous ou garde-boue, jusqu'à concurrence de 200 $ par personne. Sachant qu'un pneu à clous peut coûter entre 75 et 120 $ c'est quand même un beau coup de pouce,
ben oui.
Coup de pouce pour encourager la pratique. Puis d'ailleurs, ça a été si populaire que les premières 50 subventions ont trouvé preneur en l'espace de 10 minutes, selon Julie Roy, l'élu qui est à l'origine de cette initiative. Résultat, l'arrondissement a décidé de doubler le nombre de bénéficiaires et de passer à 100.
Parce qu'on a vu qu'il y avait un intérêt vraiment.
Exactement. Puis en plus, l'arrondissement a mandaté l'organisme Solon pour offrir un accompagnement à ses nouveaux adeptes. Et on leur proposera des ateliers d'initiation et une sortie collective. C'est quelque chose qu'ils avaient déjà fait l'an dernier, puis ils avaient attiré une soixantaine de personnes avec ça. À Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, l'an dernier, l'arrondissement avait aussi soutenu l'atelier communautaire Culture Vélo, qui est basé au Parc Jarry, et ça avait permis d'offrir aux citoyens et citoyennes un atelier où ils pouvaient faire l'essai de vélos équipés de pneus à crampons, de pneus à clous.
Avant de se lancer dans l'aventure, là, justement.
Exactement. Puis ça peut paraître vraiment simple comme action, mais parfois, il n'en faut pas plus pour démystifier la pratique du vélo d'hiver et permettre à des gens qui sont intéressés de vraiment sauter le pas. Moi, j'en ai fait l'expérience. Juste de l'essayer, parfois, ça convainc les sceptiques. Il y a plusieurs années, en fait, dans le cadre d'un mandat pour la ville de Montréal, Vélo-Québec, on avait tenu des groupes de discussion avec des personnes qui pratiquaient ou ne pratiquaient pas le vélo d'hiver. Puis vraiment, on avait isolé un facteur déterminant. C'est ni le froid, ni les précipitations qui déterminent la motivation des gens, mais bien l'état de la chaussée. On le mesure avec les fameux compteurs aussi. Dans les 48 heures après une grosse tempête de 25 km, l'achalandage sur les pistes remonte à son niveau pré-tempête. Donc, on y revient toujours. C'est les infrastructures
c'est vraiment l'état.
Qui comptent. Longueuil l'a bien compris, d'ailleurs, qui vient d'annoncer qu'il doublait son réseau cyclable hivernal en passant de 28 km déneigé l'an dernier à 60 km cette année et un objectif de plus de 115 km à l'horizon 2015. Après Montréal et la ville de Québec, c'est le plus gros réseau cyclable hivernal. Et même si on pourrait penser que le vélo d'hiver, c'est qu'une affaire de grosses villes, ben on voit des plus petites municipalités comme Drummondville, Candiac, Granby, Waterloo emboîter le pas en réalisant c'est un service qui répond aux besoins de leurs citoyens. Alors, pour finir, si nos auditeurs et auditrices se disent qu'ils sont prêts à sauter le pas, eux aussi, et qu'ils veulent se mettre au vélo d'hiver, il faut savoir qu'ils se donnent beaucoup, beaucoup d'ateliers d'initiation, que ce soit en ligne ou en personne. Et le groupe Facebook dont je vous parlais, Vélo d'hiver Montréal, c'est une ressource précieuse pour trouver réponse à toutes ces questions.
Donc, il y a possibilité de trouver de l'information, des groupes, des personnes qui en font, puis des subventions même.
Des subventions même.
Bon, mais Magali, merci beaucoup pour ton passage à l'émission cette semaine. Très hâte d'entendre la prochaine chronique vélo.
Merci, David.